En fait, je donne cette conférence un peu au pied levé pour remplacer un collègue et ami, Michel Vervoort, qui initialement devait la donner. On a un background assez commun, en fait, mais avec une différence, c'est que lui, c'est un biologiste expérimental et moi, je suis devenu un biologiste in silico. Je travaille uniquement avec l'ordinateur, donc je vais vous dire un peu mon point de vue pour savoir de quel type de perspective je me place. Initialement, j'ai fait des études d'agronomie et puis j'ai fait une thèse en génétique du développement sur la mouche. Et là, j'ai travaillé justement avec Michel Vervoort. On était dans le même laboratoire. On a fait notre thèse sous la direction de Alain Guissen, qui travaillait sur le développement du système nerveux chez la drosophile. Et ensuite, à partir de 1997, j'ai plus du tout fait de biologie expérimentale. Je me suis orienté vers la bioinformatique et en particulier vers l'analyse des génomes, mais ma spécialité, c'est l'analyse des régions non codantes. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal que ce soit moi qui sois appelé à vous faire un exposé sur le code du vivant, mais justement, les organisateurs ont tenu à étendre un petit peu le débat au-delà du code génétique. Et donc, je vais placer cet exposé sous plutôt le titre du code du vivant au programme de l'organisme. Le programme étant ici repris du livre de Jacob, La logique du vivant. Je vais vous parler de logique aussi. Alors, le point de vue de l'exposé, je vais commencer quand même par vous parler du code génétique, du décryptage du code génétique, de quelques-unes de ses propriétés, des conséquences de ses propriétés. Et ensuite, je vais parler de tout ce qui est le non-codant et justement cette extension. Et je vais essayer d'aborder une des questions qui est particulièrement pertinente dans le cadre de la vie, c'est sa capacité à s'adapter à son milieu. Et aussi la question de l'épigénétique au sens de Waddington, c'est-à-dire le fait que, en dépit du fait que toutes les cellules d'un organisme multicellulaire aient le même génome, elles ont toutes des phénotypes différents qui assurent la spécificité de leur fonction au sein des tissus, au sein des organes, etc. Donc, ça, c'est une très, très grande question pour laquelle on commence à avoir des éléments d'information. En fait, on commence depuis 50 ans ou plus. Alors, le titre de l'ensemble du colloque, c'est Qu'est-ce que la vie? Et je voudrais commencer par vous rappeler un ouvrage assez magnifique qui a été écrit par un physicien, Schrödinger, et qui s'appelle What's Life? What is Life? Et dans ce livre-là, en fait, il qualifie, bon, c'est écrit en 1944, c'est juste à la sortie de la guerre, et il y a quelques éléments extrêmement intéressants, et notamment, et visionnaires, on peut dire, et notamment, il insiste sur le fait que ce qui va être. Une des choses qu'il va falloir comprendre dans le vivant, c'est la façon dont fonctionne un cristal apériodique. Alors aujourd'hui, on sait tous ce que c'est que ce cristal apériodique. Je vous en mettrai quelques exemples. Il y en a plusieurs exemples qui vont être les éléments vraiment clés du vivant. Mais déjà, il se place lui-même en tant que physicien qui observe les questions qui se posent aux biologistes et il dit, nous, physiciens, nous avons l'habitude d'étudier les cristaux périodiques. Et ça, en fait, c'est quelque chose de. Déjà très très complexe, mais ce n'est rien du tout par rapport à la complexité qu'on va maintenant aborder en analysant des cristaux apériodiques. Il ajoute un peu plus loin d'ailleurs que les biochimistes sont des gens qui ont déjà fait quelques pas dans cette direction et qui vont poursuivre, et que c'est sans doute d'eux que viendront les solutions. Et il fait une analogie en disant que ce que les physiciens ont fait jusqu'ici, c'est du niveau de complexité d'un papier peint avec une structure répétitive, et que ce qu'il va falloir analyser sera de niveau de complexité, sera à peu près, par analogie, aussi différent de ce papier peint que. Enfin, aussi différent des structures habituelles que ne l'est une tapisserie de Raphaël par rapport au papier peint. Alors, ici, vous voyez quelques exemples de petites molécules. Donc, on voit qu'il y a une organisation tridimensionnelle. Et ça, c'est des molécules qu'on pouvait caractériser structurellement assez facilement déjà à l'époque où Schrödinger a écrit son article. Ce qui est venu un petit peu après, c'est la cristallisation et la caractérisation de la structure tridimensionnelle des macromolécules. Et alors les deux auxquels on pense assez spontanément, c'est les protéines. Donc vous voyez ici un exemple d'une protéine et un exemple un petit morceau d'une séquence d'ADN, d'une structure d'ADN, pardon. Il y en a d'autres qui vont être des acteurs très importants dans ce qui va suivre, c'est les ARN, et en particulier deux classes d'ARN. Celui de gauche, c'est un ARN de transfert. Alors on le représente souvent par le petit schéma, par un schéma aplati en fait. Qui est encadré là, qui représente d'une part le fait qu'il s'agit d'une séquence linéaire et d'autre part qu'il y a des reploiements qui font qu'il y a des interactions, une structure secondaire parce que certains éléments de cette séquence s'apparient à d'autres éléments de la même séquence. Mais en fait, c'est une structure qui est beaucoup plus complexe que ça parce qu'elle est tridimensionnelle et c'est sa conformation tridimensionnelle qui assure sa fonction. Je vais en revenir là-dessus. Et alors, vous voyez quelque chose d'encore beaucoup plus complexe ici, qui est le ribosome. Et le ribosome, c'est une machinerie moléculaire, une machine moléculaire qui est responsable de la traduction, c'est-à-dire responsable de la synthèse des protéines sur base du modèle de l'ARN. Et ce ribosome est lui-même un énorme spaghetti d'ARN avec en plus un tas d'éléments de protéines. Donc, c'est un complexe extrêmement volumineux, lourd et qui est composé d'éléments divers. Concernant la structure de l'ADN, donc comme tout le monde le sait, elle a été caractérisée en 1953 et par Watson et Crick sur base de cette figure qui leur avait été montrée par Wilkins. Et en fait, c'est la figure d'une radiographie qui a été réalisée par Rosalind Franklin. Cette structure, en fait, d'une part, c'est la première fois qu'on comprend la manière dont est organisé cet ADN, mais dans l'article même, ils disent qu'il ne leur a pas échappé que cette structure suggère un mécanisme pour la réplication. Et ensuite, ils élaborent cette question-là dans un article ultérieur, enfin, qui est paru la même année, un tout petit peu plus tard, où ils expliquent le principe du modèle, en fait, de la synthèse sur modèle, c'est-à-dire que comme la structure de l'ADN comporte deux chaînes qui sont complémentaires, chacune des deux chaînes contient exactement la même information que l'autre en miroir. Et donc, on peut imaginer que le mécanisme de réplication est assuré par la séparation des deux chaînes et que chaque chaîne peut elle-même servir de modèle à la synthèse d'une autre chaîne. Donc cette intuition s'est avérée absolument exacte et c'est effectivement comme ça que fonctionne la réplication. Ensuite, ce qu'on sait aussi, c'est que cet ADN sert de modèle à la synthèse de l'ARN, c'est la transcription, et l'existence de cette structure intermédiaire entre l'ADN et la protéine avait été supposée, elle avait été postulée par Jacques Monod et ensuite, elle a été démontrée en fait par Jacob et Brenner. En fait, Jacob est allé en Angleterre, ils ont discuté de ça avec Brenner et ils ont fait des expériences qui ont démontré qu'il y avait effectivement un intermédiaire, le messager, entre la structure de l'ADN et la structure de la protéine. Alors, c'est ici qu'on en arrive au code, en fait. C'est-à-dire qu'un des éléments assez intéressants et surprenants du point de vue de l'organisation de ces macromolécules, c'est que l'ADN comme l'ARN sont des molécules qui sont basées sur une polymérisation de quatre types de résidus. Il y a quatre nucléotides, alors que les protéines sont des polymères de 20 résidus, les acides aminés. Et donc, ce qu'on réussit à faire dans les années 60, c'est en 60-61, les travaux, qui ont démontré que, d'une part, il y a eu des travaux de Crick qui ont démontré que le code, en fait, était organisé par triplets, c'est-à-dire qu'il y avait des successions de trois nucléotides qui chacun était responsable de la spécification d'un acide aminé. Et ensuite, il y a les travaux de Nirenberg qui ont réussi à décrypter ce code, c'est-à-dire à établir la correspondance entre chacun des 64 possibilités de triplets et les différents acides aminés. Alors, ce code, justement, une fois qu'il a été décrypté, quelles sont ses propriétés ? Une première propriété que Crick évoque déjà avant même qu'on l'ait décrypté, d'ailleurs, lors de sa première expérience où il démontre la nature en triplet du code, il dit que le code est non chevauchant. Et a priori, ce n'était pas du tout évident, en fait, on ne savait rien du code. Donc, lui, il démontre par une expérience qui consiste à faire des délétions ou des insertions, il démontre que si on fait une délétion d'un nucléotide, la protéine est complètement perturbée. Si ensuite, on fait deux délétions, elle est toujours perturbée. Si on fait trois délétions, on retrouve la fonction de la protéine. Et par cette expérience-là, en fait, ce qu'il montre, c'est d'une part qu'effectivement, il y a une organisation en triplet, mais il démontre aussi que si c'est le cas, il faut bien que ça commence au bon endroit, c'est-à-dire qu'il y a un phasage. Donc le code, il est phasé. C'est une propriété importante de ce code-là. Et on le sait bien en pratique, parce que les biologistes moléculaires, les microbiologistes, ont très très souvent constaté des mutations qui provoquaient un déphasage. Une simple perte d'un nucléotide fait que la protéine a une séquence complètement différente, elle ne se conforme plus de la bonne façon, elle ne fonctionne plus. Une autre propriété du code, c'est sa quasi-universalité. Dans tous les organismes qu'on connaît, à quelques très très rares exceptions près, le code est absolument identique. Les 64 codons codent exactement pour les mêmes acides aminés ou pour le signal stop. Alors, quand on dit quasi, de plus, je pense que ça vaut la peine d'ajouter que même dans les cas où il y a une exception, c'est une exception qui porte sur un ou deux codons maximum. Ce qui veut dire que même dans ces cas-là, on est dans la situation où on peut aujourd'hui affirmer que l'ensemble de tous les organismes vivants qu'on connaît partagent le même code. que peut-être il a été un tout petit peu modifié, mais en tout cas, ce code, le plus vraisemblable de très très loin, c'est qu'il a une seule origine. Autrement dit, c'est un argument très très fort pour dire que les organismes vivants descendent tous d'une même espèce ancestrale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres formes de vivants qui ont coexisté au moment où il y a eu l'émergence de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de vivant, selon les critères sur lesquels personne n'est arrivé à se mettre d'accord ce matin. Mais en prenant quelques-uns de ces critères, en fait, la question des origines va justement se poser, c'est de savoir si un jour il y a eu le vivant et la veille il n'était pas là. Je pense que justement les gens qui travaillent sur les origines n'ont pas cette vision-là. Et donc dans cette transition progressive entre ce qu'on peut appeler du prébiotique et du vivant, il est possible, et même assez vraisemblable, qu'il y avait diverses formes d'organisation qui avaient cette capacité à se répliquer, à se multiplier, avec variation et donc se prêter à l'évolution darwinienne. Qui est, à mon avis, et en plus à métaboliser, à consommer les choses dans leur environnement, à ne rejeter, et donc il y avait plus ou moins les propriétés sur lesquelles on est quand même généralement assez d'accord pour définir le vivant. Alors, une autre propriété du code, c'est la redondance du code, la synonymie, c'est-à-dire que ici sur le tableau, vous voyez pour chaque acide aminé, les codons qui codent pour cet acide aminé. La plupart des acides aminés, il y a plusieurs façons de les encoder. Et cette redondance du code, donc, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence du code. Dégénérescence au sens où, quand on part des nucléotides, au moment où on va vers les acides aminés, on va perdre de l'information. C'est le message qui va être dégénéré. Alors, en fait, le code aussi, il n'est pas distribué, cette dégénérescence n'est pas distribuée de façon aléatoire. En fait, elle est distribuée d'une façon assez frappante, parce que si on fait le tableau, si on organise les mêmes informations que là-haut, qu'il y a là-haut, mais selon un tableau où on regroupe les triplets, les codons, en fonction des deux premières lettres, on voit que quand il y a de la synonymie, généralement, c'est la synonymie porte sur le dernier résidu, en fait toujours, quasiment toujours, sauf il y a une exception, c'est la leucine, où il y a 6 codons, et donc, effectivement, ça va aller pêcher dans 2 préfixes différents. Donc, ça donne peut-être une piste pour réfléchir à l'origine de ce code. Je pense que c'est une question extrêmement difficile, que je ne connais pas bien. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais concernant l'origine de ce code, c'est sans doute que c'est une des clés pour, en tout cas, émettre des hypothèses. Alors, une autre chose qui est assez importante, évidemment, c'est que ce code, il est univoque dans le sens de la traduction. Mais par contre, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'est pas biunivoque. Ça veut dire aussi que c'est un code qui permet d'encoder, mais pas de décoder. Alors ça a été exprimé par Francis Crick dans... alors oui, à propos de ce vocabulaire-là, justement, d'encodage, décodage, il est directement emprunté à la théorie de Shannon, théorie de l'information. En fait, Shannon a publié en 1948 un article fondateur pour l'ensemble, non seulement de l'électronique, il travaillait en transmission, il travaillait chez Bell, et il a publié un article qui est un... sur la théorie de l'information, il définit, il pose les fondements d'une théorie de l'information qui va s'appliquer non seulement à la transmission d'informations des machines, entre un émetteur et un récepteur, et donc les schémas là sont tirés de son article originel qui a été publié dans le journal de sa compagnie, d'ailleurs de Bell. L'idée c'est que c'est une compagnie dont la fonction était de transmettre des messages depuis un émetteur vers un récepteur, et le problème c'est qu'on devait passer par un canal qui était bruité, où on perd de l'information. Et donc le travail de Shannon, c'était de mettre en place des processus pour assurer la meilleure transmission possible de l'information. Et pour ça, il imagine des méthodes d'encodage de l'information, et puis de transmission, et ensuite de décodage, et... Dans ces méthodes-là, il inclut une analyse de la redondance, et la redondance, d'une part, va être utile en tant qu'analyse de la capacité portante d'un canal d'information, mais aussi ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir ajouter de la redondance pour essayer de compenser les effets de la perte d'information au cours du transfert. Donc tout ça, ça a été évidemment extrêmement utile dans le domaine des communications, mais ça a été aussi repris en physique, en biologie et dans des tas d'autres domaines de la connaissance. Et donc c'est un article qui a vraiment marqué son époque. La théorie de Shannon, elle est vraiment passée inaperçue nulle part. Elle a marqué tous les domaines de la connaissance à son époque. Alors, je voudrais aussi revenir aux racines du mot information, parce que donc Shannon définit de façon technique ce que c'est que l'information. C'est la première mesure quantitative de l'information qui, jusqu'ici, était définie De différentes façons, en fait, mais quand on dit le mot information, ce que vous avez en tête et ce que moi j'ai en tête initialement, c'est plus proche de Shannon de la définition originelle. Alors je voudrais revenir sur la définition originelle. En latin, informatio, en fait, initialement, ça veut dire organiser, façonner, former. Ça vient de informare. Il y a un sens secondaire, mais il est apparu ultérieurement en latin, qui est celui du dessin, l'esquisse, donc. Enfin, informare, c'est organiser, et informatio, c'est l'esquisse, le dessin, la conception, la représentation. Et en fait, ça va prendre beaucoup de sens quand on l'applique à la biologie, parce qu'une des grandes questions qui vont se poser, c'est où se situe l'information qui va permettre aux organismes de se développer et d'élaborer leur forme, la morphogénèse. Donc, c'est de ça que je vais parler aussi dans ce qui suit. Et ça nous ramène aussi, la question a été posée exactement de la même façon par Aristote, en fait, sauf que lui ne disposait pas du mot information, c'est un mot latin. Et donc, il utilisait un mot qui s'appelle eidos, et qui veut dire aussi bien la forme dans le sens de le contenu d'information qui va pouvoir donner de la forme, et la forme réalisée. Alors, en fait, on peut plutôt distingué chez Aristote, cet eidos, et il va parler de l'embryogenèse, et il va dire que dans l'œuf, enfin dans la semence, il y a déjà la forme de l'adulte, mais il veut dire l'information. Il ne faut pas comprendre ça en se disant qu'il imagine qu'il y a un petit adulte à l'intérieur de la semence, et cette forme va se matérialiser, elle va se réaliser, elle va devenir effective, et ça c'est l'entéléchie, elle va devenir effective et structurer une matière pour donner un corps. Il y a eu un débat assez important autour de ce que Francis Crick a publié sous le nom du dogme central. Et en fait, ce dogme central est une des choses les plus méconnues des biologistes. Si vous demandez à n'importe quel biologiste ce que c'est que le dogme central, il va dire « l'ADN fait de l'ARN, fait des protéines ». C'est une phrase qui a été aussi prononcée par Crick, mais ce n'est pas ça sa définition du dogme central. Et la vraie définition, c'est la suivante. Alors, je l'ai ici en anglais, mais je l'ai traduite. Donc, je pense que ça vaut la peine de la lire. Le dogme central stipule qu'une fois que l'information est passée dans la protéine, elle ne peut pas en ressortir. Plus précisément, le transfert d'information serait possible d'acide nucléique à acide nucléique ou d'acide nucléique à protéine, mais le transfert de protéine à protéine ou de protéine à acide nucléique est impossible. Information signifie ici la détermination précise de la séquence, soit des bases dans l'acide nucléique, soit des résidus aminoacides dans la protéine. Je pense que c'est très très important de relire cette définition parce qu'en fait, très souvent, des biologistes ont dit le dogme central a été réfuté. À un point tel que Crick lui-même, en 1970, a publié un papier pour dire « arrêtez de me casser les pieds avec le dogme central a été réfuté, lisez au moins mon article ». Et il a reformulé son dogme, enfin il n'a pas reformulé, il n'a rien changé à la formulation, il termine son article en disant « dans sa formulation originale, le dogme central est toujours aussi utile et actuel qu'à l'époque ». Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce que disait, donc, dans le premier schéma, il montre tous les transferts possibles d'informations a priori, c'est tout ce qu'on pourrait imaginer. Mais, alors, en 58, ce que lui concevait, mais il n'avait pas publié ce schéma, il avait décrit le contenu du schéma, mais il ne l'avait pas publié en tel que tel, c'est qu'on connaissait des mécanismes de transfert d'ADN à ADN, ça s'appelle la réplication, d'ADN à ARN, ça s'appelle la transcription. À l'époque, on pensait que le virus à ARN se réplique d'ARN à ARN. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette flèche noire pour aller de l'ARN à l'ARN. Et puis, on savait qu'il y avait la traduction, c'est-à-dire la synthèse de protéines sur modèle de l'ARN. Donc, les flèches noires représentent les schémas, soit qui avaient été démontrés, soit pour lesquels on disposait d'indications, Crick dit « evidences », donc des indications expérimentales ou indirectes, dit-il. Et par ailleurs, ce qu'il révise en 70 sur base de la découverte de la reverse transcription, c'est qu'en fait, la flèche noire, au lieu d'être de l'ARN à l'ARN, elle passe... ce qu'ils connaissent à l'époque, donc c'est curieux parce qu'il n'y a pas de flèche noire de l'ARN à l'ADN, mais en fait ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'il y a des flèches noires de l'ARN à l'ADN, c'est-à-dire qu'on a découvert les mécanismes de rétrotranscription, c'est notamment les virus ARN qui sont capables de faire ça, et il y en a un qui est bien connu, c'est le virus HIV qui est responsable du sida. Par contre, ce que Crick maintient, et je pense qu'il a absolument raison, c'est qu'il est extrêmement invraisemblable qu'on découvre un mécanisme qui permette de synthétiser des acides nucléiques à partir des protéines. Et la raison est très simple, c'est qu'on a perdu de l'information. C'est-à-dire qu'il y a un nombre astronomique de possibilités différentes. Si on devait, on pourrait imaginer, on pourrait concevoir une machine qui synthétise un acide nucléique à partir des protéines, mais même si on faisait ça, si les chimistes arrivaient à faire ça, de toute façon, ils ne seraient pas capables de reproduire l'information initiale. Et donc, au sens de Shannon, on aurait perdu l'information parce que pour chaque acide aminé, il y aurait entre 1 et 6 codons potentiels. Alors, j'aimerais bien aussi revenir sur le vocabulaire de encoder, code, etc. Ça, c'est évidemment un vocabulaire qui a été fortement influencé par le contexte d'après la Seconde Guerre mondiale, où l'encryptage, en fait, le code était utilisé dans le sens de l'encryptage. Shannon utilise le code dans un sens différent, qui était pragmatique. Enfin, bon, l'encryptage était aussi très pragmatique, mais Shannon l'utilise dans le sens de transmission d'informations. Il y a un débat, souvent les bons professeurs de biologie disent il ne faut pas dire un gène code pour une protéine, il faut dire un gène encode une protéine. Moi je pense que les deux formulations sont fausses. En fait le gène il contient le message, il ne contient pas le code. La seule chose qui encode c'est le ribosome. Le ribosome encode le message du gène. Si on prend vraiment l'analogie de Shannon, le message n'est pas le transmetteur. Donc ce qu'il appelle transmetteur c'est ce qui procède à l'encodage. Et ensuite il y a un receveur qui décode et puis à la destination. Donc, au sens de Shannon, ce qui encode, c'est le ribosome et ses clés d'encodage, si on veut poursuivre l'analogie, ses clés d'encodage, c'est les ARN de transfert. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces ARN de transfert ? C'est des enzymes, en fait. C'est-à-dire que chaque ARN de transfert peut être chargé exclusivement en un acide aminé. Et donc, il y a 63 ARN de transfert. Et ces ARN de transfert, donc, ce qui assure la spécificité de leur chargement, c'est des enzymes protéiques. En particulier, ces enzymes s'appellent aminoacyles et tRNA synthétase. Donc ça pose évidemment une très très grande question qui est de savoir comment tout ça s'est mis en place au fil de l'évolution. Les origines de ce code et les origines surtout d'un code qui repose à la fois sur l'existence de protéines et de l'ARN pour produire des protéines qui permettent d'exécuter et de mettre à exécution le code et l'encodage. Alors maintenant, donc, je voudrais vous aborder la deuxième partie de mon exposé, qui est l'information au-delà du code génétique. Alors, je vais commencer par vous donner j'entre un tout petit peu plus dans mon domaine, en fait, qui est l'analyse des séquences non codantes. Et je voudrais vous montrer un tableau ici qui donne des ordres de grandeur de la taille des génomes pour différents organismes modèles. Alors, les premiers sont des bactéries, hein, des organismes prokaryotes. Et on voit que les génomes varient entre 500 kilobases et bon, les plus grosses bactéries font 10 mégabases, mais une bactérie moyenne fait 3 mégabases, 3-4 mégabases. Ce qui est assez frappant, c'est que le nombre de gènes est vraiment linéairement lié à la taille des génomes. Il y a en gros un gène tous les kilobases. Dans une bactérie, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, un gène tous les kilobases. Et 95 à 90% du génome est codant. La partie non codante est vraiment une fraction minoritaire du génome. Si on regarde la levure, qui est un eucaryote unicellulaire, et le premier qui a été séquencé, c'est la levure du boulanger, Saccharomyces cerevisiae, on a un génome de 12 mégabases, donc il est 3 à 4 fois plus grand qu'un génome bactérien, mais on n'a que 6000 gènes, autrement dit une fois et demi plus. Et la proportion de régions non codantes, elle passe de 10 à 15% pour les bactéries à 27% pour les levures. Et on retrouve les mêmes proportions dans d'autres levures. Aujourd'hui, on dispose du génome de 500 levures. C'est très, très constant. Quand on analyse des génomes de métazoaires, d'organismes métazoaires, ce qu'on voit, c'est que la taille des génomes est assez variable. En fait, il y a des petits génomes qui font 100 mégabases, des gros génomes qui en font 3 gigabases. Notamment, le génome humain fait 3 gigabases. Il y a des génomes qui sont encore plus grands. Et ce qu'on constate, c'est que progressivement, quand la taille des génomes augmente et quand la complexité que nous associons à ces organismes augmente, ce qui augmente, ce n'est pas du tout le nombre de gènes, ou en tout cas, il n'augmente pas du tout proportionnellement. Ce qui augmente, c'est la proportion de régions non codantes. Et dans le génome humain, par exemple, ben, il y a un génome qui est 1000 fois plus grand que celui d'une bactérie moyenne, et il n'y a que 10 fois plus de gènes. Et par contre, il y a 97% de ces génomes qui ne codent pas. Et donc, il y a là-dedans quelque chose qui est assez interpellant, et ça me rappelle qu'au moment où il y a eu les premières étapes du séquençage du génome humain, il y avait eu une question parmi la communauté des gens qui devaient assurer le séquençage, savoir si on allait vraiment séquencer tout ce génome, y compris ce junk DNA, ce qu'on appelait le junk DNA, l'ADN poubelle, ou bien si on allait se limiter à faire ce qui semblait raisonnable à certains, c'était de séquencer uniquement les parties codantes, parce qu'on pouvait aller pêcher les ARN messagers, et puis séquencer les rétrotranscrire en ADN, et puis les séquencer. Bon, ça faisait partie des débats parce qu'il y avait évidemment un investissement énorme parce que ça représentait un séquençage 30 fois plus important si on séquençait le génome humain par rapport aux régions codantes. Bon, finalement, la décision a été prise de séquencer le génome entier. Et actuellement, avec une vingtaine d'années de recul, en fait, une très très grande partie de la communauté aujourd'hui est en train d'essayer de décrypter ce qui se passe dans le génome non codant. Donc c'était un choix qui était assez justifié. Oui, une petite remarque aussi, c'est que les génomes de plantes, chez les plantes, il y a une encore plus grande variation de la taille des génomes. Et donc, vous voyez, il y a des génomes ici qui font 250 gigabases, autrement dit, qui sont 80 fois plus grands que celui du génome humain. Alors, en fait, que font ces régions non codantes? Elles interviennent dans deux phénomènes qui sont absolument essentiels à la vie. Il ne suffit pas de se reproduire et puis de varier. En fait, ce que font les vivants aussi, c'est de s'adapter à leur environnement. Et ça, on le sait depuis très longtemps, les microbiologistes le savent, quand on met des bactéries dans des environnements différents, elles ont la capacité d'adapter la production d'enzymes en fonction des substrats qui sont disponibles. Et c'était le sujet de thèse de Jacques Monod. Il a commencé sa thèse sur ce sujet-là, et il a analysé le shift dioxique, c'est-à-dire la façon dont Escherichia coli adapte sa production d'enzymes selon les substrats qu'on lui donne, et en particulier quand on lui donne deux enzymes. Il constatait que si on donne deux enzymes simultanément à la bactérie, au lieu de consommer les deux enzymes en même temps, elle commence par consommer l'enzyme. Si on lui donne deux sucres, on donne deux sucres à la bactérie, merci. Au lieu de consommer les deux simultanément, elle commence par consommer le sucre qui est le plus facile à assimiler. Et c'est seulement au moment où elle est épuisée, ce sucre-là, elle marque à ce moment-là un petit arrêt dans sa multiplication. Et puis, au bout d'un petit temps, elle recommence sa croissance et elle consomme le deuxième sucre. Et donc, on a appelé ça le shift dioxique parce que il y a un basculement entre un mode de consommation et un autre mode de consommation. Alors, en fait, Monod a passé quasiment l'essentiel de sa carrière à répondre à cette question-là, et ça l'a amené à découvrir d'une part les mécanismes de régulation allostérique, c'est-à-dire la régulation des enzymes par la conformation des enzymes. Ça l'a amené à découvrir avec George Cohen les transporteurs, c'est eux qui ont caractérisé la première perméase, qui l'ont appelée perméase parce qu'elle a des propriétés identiques, enfin similaires à celles des enzymes, et c'est ce qui les a amenés, avec Jacques Monod et André Wolff, avec François Jacob et André Wolff, à découvrir la régulation transcriptionnelle. Un autre, je vais en parler après, mais avant que j'oublie, donc, un autre phénomène absolument fondamental du vivant, c'est la différenciation. Alors ici, je l'ai exprimé en termes d'organismes multicellulaires, mais ça existe également pour les unicellulaires. Toutes les cellules vivantes et tous les organismes ont la capacité de se différencier. Chez les unicellulaires, il y a par exemple la sporulation, il y a des formes de résistance aux conditions de stress. Et chez les êtres pluricellulaires, la forme la plus spectaculaire de différenciation, c'est à partir d'une seule cellule, le zygote, on forme un organisme complet où chaque type cellulaire a une morphologie et une physiologie différente. Alors ça, justement, cette question-là, elle a été posée par Waddington en 1942, dans un article qui est fondamental également, où il définit le concept d'épigénome et le concept d'épigénétique. Il définit ces deux mots. Et donc j'ai repris ici la citation où il les définit. Je pense que ça vaut la peine de les relire aussi, parce que très souvent aujourd'hui, quand les gens parlent d'épigénétique, ils sont concentrés sur un mécanisme particulier qui permet une adaptation épigénétique, alors que le concept est beaucoup plus général que ça. Et en fait, Waddington le définit en posant exactement cette question-là. Toutes les cellules d'un organisme ont le même génome, et pourtant, elles ont des phénotypes. Elles ont le même génotype, mais elles ont des phénotypes différents, et donc définies comme épigénotype, ce qui assure le lien entre le génotype et le phénotype, et qui permet à des cellules ayant le même génome d'avoir des phénotypes différents. Et il définit aussi l'épigénétique comme l'étude de ces mécanismes. Alors, je vais passer maintenant à l'interrupteur génétique, mais avant ça, je vais vous parler d'une expérience qui est la première expérience où on a démontré des mécanismes épigénétiques, et cette expérience, c'est chez les bactéries. Ça s'est passé chez Escherichia coli, une fois de plus, et c'est une expérience qui a été publiée par Novick et Wiener. Et l'expérience est très élégante, en fait. Ce qu'ils ont fait, on savait déjà à l'époque que la bactérie, quand on lui donne du lactose, elle a la capacité de produire d'une part le transporteur du lactose et d'autre part l'enzyme qui permet de dégrader le lactose, et donc ça lui donne la capacité de consommer le lactose. Et par contre, quand on ne lui donne pas de lactose, elle est inactive, elle n'exprime pas ces enzymes-là, donc il y a une sorte de mécanisme d'économie, il y a une régulation, un contrôle de l'expression de ces enzymes. Et ce qu'ont fait Novick et Wiener, c'est ils ont trouvé un inducteur, c'est-à-dire c'était une molécule qui était capable de susciter, de stimuler la production de ces enzymes, mais qui n'était pas consommée par les enzymes elles-mêmes. Et donc ça permettait à souhait soit d'induire l'expression, soit de ne pas l'induire. Donc quand on mettait une forte concentration d'inducteur, les enzymes sont produites. Quand on ne met pas d'inducteur, les enzymes ne sont pas produites. Mais ils se sont posé la question du seuil. Qu'est-ce qui se passe si on se met juste à la concentration seuil ou si on passe au-dessus, l'enzyme est produite, et si on reste en dessous, elle n'est pas produite. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on observe une diversité de comportements, c'est-à-dire que quand on fait des analyses où on prend des bactéries, on les dilue, on les met en clone, ben, il y en a certaines qui expriment les enzymes et d'autres qui ne les expriment pas. C'est un petit peu ce qu'on s'attend d'un comportement sur seuil. Mais ils ont poussé l'expérience plus loin. Ce qu'ils ont fait, c'est de prendre une culture bactérienne qui était dans la concentration seuil. Et puis, ils ont fractionné, et pour une des fractions, ils font une induction très très courte, c'est-à-dire que pendant 10 minutes, ils mettent une concentration très élevée de l'inducteur, alors que pour l'autre fraction, ils ne font pas d'induction. Et puis, ils remettent toutes les bactéries dans la même concentration seuil. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'en fait, les cellules qui ont été induites pendant 10 minutes sont activées et qu'elles transmettent cet état d'activation à leurs cellules filles, et ça pendant plus de 130 générations. Alors que les cellules qui n'ont pas été induites restent dans l'état inactivé. Et donc là, on a le premier cas qui est interprété en 1958. Donc cette expérience-ci date de 1957. En 1958, il y a un article de Nani où il définit l'épigénétique, il revient sur l'épigénétique, il fait une revue de l'épigénétique, des conditions de l'épigénétique, non seulement chez les bactéries, mais chez les organismes multicellulaires. Et notamment, il interprète l'expérience de Novick et Wiener en termes d'épigénétique. Il dit ça, c'est un homéostat épigénétique. Novick et Wiener n'avaient pas utilisé ce mot-là. Mais en tout cas, à leur époque, quand ils font ça, ça fait tout de suite penser à la régulation épigénétique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre le phénomène épigénétique avant de connaître les mécanismes, puisque l'opéron, la régulation transcriptionnelle, a été découverte en 1960, c'est-à-dire 3 ans après l'expérience de Novick et Wiener. Alors justement, dans cette expérience de l'opéron, ici vous avez les figures originales de l'article de Jacob et Monod, en fait, ce qu'il montre, c'est qu'il y a des régions génétiques dont la fonction est de contrôler l'expression d'autres régions génétiques. À l'époque où ils publient l'article, ils ne savent pas si les acteurs, les effecteurs de cette régulation sont des protéines, agissent au niveau de l'ADN ou agissent au niveau de l'ARN. Donc ils ouvrent les deux possibilités. Après, il s'est avéré que, en fait, c'était au niveau de l'ARN, de l'ADN. Et le mécanisme repose sur une protéine qui s'appelle le répresseur. Donc vous voyez ici la structure du répresseur. En bleu et en rouge, vous avez une paire de polypeptides parce qu'ils forment un homodimère. Et en jaune, vous voyez l'ADN. Et en fait, ce répresseur a la capacité de se lier à l'ADN et de reconnaître des séquences spécifiques. Et donc, c'est comme ça qu'il se lie spécifiquement à l'opérateur. Et en fait, quand il y a du lactose, en absence de lactose, pardon, ce répresseur est assis sur le gène et il empêche la transcription et donc il empêche la production des enzymes. Et puis, quand on donne du lactose à la cellule, en fait, le répresseur est inactivé, il se détache de l'ADN et donc la machinerie de transcription peut arriver sur l'ADN, commencer à transcrire et ensuite l'ARN est traduit et l'opéron produit d'une part le transporteur de lactose et d'autre part la galactosidase. Alors, du coup, ça ouvre le modèle du switch, en fait, de l'interrupteur génétique, c'est-à-dire qu'on représente ces facteurs comme des interrupteurs qui ont la capacité d'allumer ou d'éteindre les différents gènes. Et effectivement, pendant les années 70-80, on a caractérisé énormément de facteurs transcriptionnels et leurs gènes cibles. Et donc, on avait typiquement une vision d'une voie métabolique avec un facteur transcriptionnel qui va soit allumer l'expression de toute une série de gènes qui vont coder pour les enzymes qui permettent de dégrader un substrat ou de produire une molécule, ou bien qu'ils vont le réprimer. Ou plus précisément, à l'époque de Monod, on ne pensait qu'à la répression, parce que comme les trois premiers cas où on avait découvert des régulateurs, c'était des répresseurs, à l'époque, en fait, ils pensaient que tout était répression. Je vais revenir là-dessus. Mais on peut se demander, du coup, comment situe l'information qui est liée à, ces facteurs transcriptionnels, ces protéines qui ont la capacité de se lier à l'ADN. Et ici, ce que j'ai fait, c'est de collecter une série de sites de 6 régulations. Donc, c'est des séquences, des endroits qui sont reconnus par un facteur transcriptionnel de levure. Le facteur s'appelle FO4. Il régule une poignée de gènes chez la levure qui sont toutes impliquées dans la régulation du phosphate. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les endroits où ça se lie partagent des séquences communes. Et très, très souvent, il y a un motif CACGTG ou CACGTT. Et si on collecte cette information pour la représenter, par ces matrices et ensuite par ce graphisme qu'on appelle un logo qui a été défini par Schneider en 1986. Et en fait, ce logo fait explicitement appel à la théorie de l'information de Shannon. La hauteur de chaque colonne représente le contenu informationnel d'une colonne de l'alignement des séquences. Donc quand on a un contenu informationnel de 2 bits, ça veut dire que cette information suffit à spécifier un nucléotide, puisqu'il y a 4 possibilités dans le code de l'ADN et de l'ARN. Il faut 2 bits pour déterminer de façon univoque un nucléotide. Alors ce que vous voyez bien ici, c'est que ce petit facteur, si on fait la somme des hauteurs des colonnes, on va peut-être arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6 bits en tout. Alors j'ai fait une petite expérience qui est de prendre une base de données avec 600 motifs de régulation pour des facteurs transcriptionnels humains, et j'ai calculé pour chacun son contenu informationnel en bits, et ce qu'on voit c'est que donc la courbe verte c'est la courbe cumulative, la courbe orange c'est la courbe décroissante cumulative, et donc à l'intersection des deux on a la médiane, et en fait la médiane ça fait 10 bits, 10-12 bits, et donc en général l'information qui est contenue dans la liaison d'un facteur transcriptionnel à l'ADN c'est 5 à 6 nucléotides. Autrement dit, si on cherche le motif dans l'ensemble du génome, on s'attend à trouver tous les 4 kilobases. Si on cherche sur les deux brins, parce qu'en fait ces facteurs transcriptionnels généralement peuvent agir dans un sens ou dans l'autre, enfin eux ils voient une structure tridimensionnelle, ils ne voient pas une séquence linéaire de caractères, eh bien on s'attend à trouver un site tous les 2 kilobases. Alors évidemment dans un génome comme le génome humain où il y a 3 millions de paires de bases, pour n'importe quel facteur on s'attend à trouver 3 milliards pardon, on s'attend à trouver des millions de sites. Donc ça pose un gros problème par rapport au switch génétique. Où est mon interrupteur? Là j'ai l'impression que j'ai déjà perdu un peu mon interrupteur. Et donc ça c'est une question que je me posais à la sortie de ma thèse. J'ai travaillé moi pendant ma thèse sur les régulateurs du système nerveux. Et effectivement, on écrivait le facteur EKIT, le facteur SCUT se lie à des sites CANNTG. Je me disais, des sites CANNTG, il y en a partout dans le génome. Donc, où est l'information? Où est la spécificité? Il ne suffit pas d'avoir un facteur qui reconnaît des sites, il faut plus, il faut autre chose. Alors, cette question-là, c'est une question qui a été abordée dans tout le domaine de la biologie du développement. Et notamment, la question est également posée du développement, elle est posée également par Schrödinger dans dans son livre de 1944. Et dans ce livre-là, il dit qu'en fait, les chromosomes doivent contenir une sorte de code script. Alors quand il dit code script, je pense que c'est assez intéressant parce que ce n'est pas le code au sens du code génétique, de la correspondance entre nucléotides, etc. C'est l'idée vraiment d'un script, c'est-à-dire d'un message. C'est vraiment plutôt dans l'idée de message, si on fait l'analogie avec Shannon. Et en fait, que ce script devrait effectivement déterminer le pattern entier d'un individu, d'une part son développement et son fonctionnement à l'état mature, à l'état adulte. Enfin non, à l'état mature, parce que la larve embryonnaire, elle fonctionne. Et même tous les stades intermédiaires fonctionnent d'une certaine manière. Alors ce qu'il dit aussi, et que je trouve assez intéressant, il fait une analogie, il dit en appelant la structure de ce chromosome un code script, ce qu'on veut dire c'est qu'un esprit omniscient, comme celui qui a été conçu par Laplace, pourrait immédiatement comprendre toutes les connexions causales, pourrait dire à partir de la structure, ici on doit entendre sans doute la séquence, lui ne le savait pas, mais c'est la séquence de l'ADN, pourrait prédire si un œuf va donner, dans les conditions appropriées, un coq noir ou une mouche ou un maïs ou un rhododendron, etc. etc. Et ça fait penser évidemment à ce tableau de Magritte, qui s'appelle la clairvoyance, où on voit le peintre qui, à partir de l'œuf, voit déjà ce qu'il va donner. Et ce tableau avait été repris par Alain Guissen, mon directeur de thèse, donc comme couverture d'un numéro spécial de la revue International Journal of Developmental Biology. Alors, pour revenir à Waddington, Waddington pose aussi la question du développement. En fait, sa question, elle est vraiment celle du développement. Et justement, ça nous rapproche une fois de plus de la mouche, c'est-à-dire qu'il dit qu'une manière d'analyser cet épigénotype, c'est de se concentrer, soit on peut faire, c'est se concentrer sur un gène et puis voir tous les endroits où ce gène agit, ça c'est l'analyse de la pléiotropie des gènes, mais une autre approche, dit-il, est de s'intéresser à un organe et d'essayer de voir tout ce que différents gènes, tout ce que différentes mutations peuvent, tous les effets que peuvent avoir différentes mutations sur cet organe, et donc d'aller collecter tous les gènes qui interviennent dans le développement, la formation et le fonctionnement d'un organe particulier. Et il dit, un très bon exemple pour ça, c'est l'aile de la mouche, parce que c'est un organe sur lequel il y a eu énormément de travaux de généticiens, et puis ici des travaux, etc. Ce qu'il dit aussi, c'est assez intéressant, c'est que le génotype contrôle de façon non intermittente, de façon continue, le développement. Il a cette vision que les gènes ne sont pas juste là à un certain moment donné et puis ils s'arrêtent. De façon continue, c'est le génotype qui contrôle le développement. Alors ça a été vraiment démontré de façon extrêmement brillante quelques années plus tard, dans les débuts, fin des années 70, début des années 80, par les travaux des généticiens du développement chez la mouche. Et un des exemples les plus spectaculaires, c'est l'analyse qui a été menée par Christian Nusslein-Vollaert et Eric Wischaus, qui ont essayé de caractériser des mutants chez la mouche qui perturbaient l'organisation de l'embryon. Et ils ont isolé une cinquantaine de mutants qui avaient tous des phénotypes où l'organisation était déformée. Soit c'était des embryons avec deux têtes, soit avec deux queues, soit tous certains segments manquaient, etc. Et puis, après avoir détecter tous ces mutants, ce qu'ils ont fait, c'est de les catégoriser, et ils ont montré qu'il y en a qui affectaient soit une extrémité de l'embryon, soit qui affectaient des grandes tranches, soit qui affectaient des patterns périodiques, et ils ont montré ainsi qu'il y avait une cascade hiérarchique dans les phénotypes. Ultérieurement, il y a eu des dizaines d'années de travaux de centaines de laboratoires de dizaines de laboratoires de biologie moléculaire qui ont caractérisé la fonction des gènes qui étaient responsables de ces changements phénotypiques. Et en fait, la plupart de ces gènes sont des facteurs transcriptionnels. C'est des facteurs transcriptionnels qui régulent d'autres facteurs transcriptionnels, qui régulent d'autres facteurs transcriptionnels. Et donc, une partie de l'information se trouve dans des réseaux qui sont constitués par des interactions entre des facteurs transcriptionnels et les gènes qui codent pour d'autres facteurs transcriptionnels. Donc ici, vous voyez une représentation un peu schématique, parce que c'est plus complexe que ça, d'un de ces réseaux qui préside à la formation des bandes dorso-ventrales, de la segmentation dorso-ventrale de l'embryon de drosophile. Alors, comment ça se passe justement au niveau de l'information? C'est ici qu'on voit apparaître des aspects combinatoires. C'est-à-dire que l'idée n'est plus qu'un facteur transcriptionnel se lie à un site et puis va allumer un gène. On voit bien que les facteurs transcriptionnels interagissent. Plusieurs facteurs transcriptionnels interviennent dans la régulation de l'expression d'un gène dans une bande particulière de l'organisme. Et ça a été très très bien décrypté dans le cas du gène even-skipped de la drosophile. Donc c'est un gène qui s'exprime en 7 bandes antéro-postérieures. Vous voyez le marquage brun qui représente dans l'embryon les 7 bandes où s'exprime ce gène. Donc il s'exprime en alternance. Dans un segment il s'exprime, dans le suivant il ne s'exprime pas, puis dans le suivant il s'exprime, etc. Et en fait, on a montré, alors ce pattern périodique, ça a vraiment suscité de l'enthousiasme chez les mathématiciens parce qu'ils disaient, ah ça, nous on sait faire, on sait modéliser la formation d'ondes à partir d'un gradient. Parce que ce qu'on voyait, c'est que les premiers gènes, c'était en fait ceux qui intervenaient tout au début, c'est des gènes qui s'exprimaient soit à l'avant, soit à l'arrière de l'embryon. Et donc les mathématiciens ont développé des modèles mathématiques pour montrer comment à partir d'un gradient et un modèle de diffusion-réaction, on pouvait générer un pattern périodique comme celui-ci à partir de deux gradients croisés. Et en fait, les expériences, la biologie expérimentale a montré que ce n'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait et ont plutôt confirmé la célèbre idée de François Jacob selon laquelle l'évolution, c'est du bricolage. Il s'avère que pour chacune de ces bandes, il y a un mécanisme de régulation qui est complètement indépendant des autres parce que ça repose sur une combinaison de sites de liaison pour 3, 4, 5 facteurs transcriptionnels distincts. Et donc, chacune de ces bandes est régulée par un mécanisme complètement séparé qui est apparu vraisemblablement de façon contingente dans l'évolution. Alors, ici, en bleu, vous voyez justement une de ces bandes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a sectionné une partie des régions non codantes à proximité du gène et on les a mises en contact avec ce qu'on appelle un gène rapporteur, c'est-à-dire c'est un gène qui normalement n'existe pas chez la drosophile, c'est un gène de Escherichia coli, mais qui exprime une enzyme, la galactosidase en l'occurrence, et qu'on peut marquer après avec un marquage bleu ou brun selon qu'on utilise des anticorps ou des substrats. Et ce qu'on voit, c'est que si on sectionne ce petit morceau de région non codante, en fait, elle suffit à induire l'expression de ce gène dans une bande particulière qui est la deuxième bande du pattern d'Evenskip. Et donc là, ça nous dit que cet aimant-là, c'est ce qu'on appelle un enhancer, c'est quelque chose qui augmente l'expression à un stade particulier du développement dans une région particulière de l'embryon. Et ce qu'on voit aussi avec le dessin avec les bananes et les poires, là, c'est que, en fait, c'est une représentation schématique, mais qui montre la dissection même un petit peu plus détaillée de cet enhancer en indiquant les endroits où il y a des sites de liaison pour différents facteurs transcriptionnels qui font partie de ce même réseau que je vous ai montré précédemment. Alors un autre exemple, toujours dans le développement de la drosophile, c'est la spécification de l'identité segmentaire. Parce qu'une fois qu'on a découpé cet embryon en tranches, chacun de ces segments, on voit bien que les drosophiles sont segmentés, vous savez bien que nous sommes segmentés aussi, hein, on a des tas de structures segmentaires dans notre corps, notamment les vertèbres, les côtes, etc. Et en fait, chacun de ces segments est quand même un peu différent des autres. Et donc, cette spécification, elle est faite par une autre série de gènes. Et vous voyez ici des mutants qui ont été isolés par Ed Lewis. Une seule mutation chez un drosophile fait qu'à la place d'avoir des antennes, on a des pattes. Il y a d'autres mutations qui font qu'à la place d'avoir le deuxième segment thoracique, on a une copie du premier segment thoracique. On a des mouches qui ont quatre ailes au lieu d'en avoir deux. Donc ces mutations-là, en fait, tous ces travaux-là, alors je vais un petit peu raccourcir, mais tous ces travaux-là ont démontré en fait que l'information réside non pas uniquement dans les régions codantes, une grande partie de l'information qui préside à la formation d'un organisme réside dans la région non codante, que cette information, une grande partie de ce qui s'y passe en tout cas, est régulée par des protéines spécialisées qu'on appelle facteurs transcriptionnels, qui ont la capacité de reconnaître des endroits, des sites spécifiques, des séquences spécifiques dans l'ADN. Néanmoins, l'information individuelle de chaque site ne suffit pas. Une partie de ce qui assure la spécificité, c'est que les sites se combinent en régions qu'on appelle des modules cis-régulateurs. Modules au sens où si on extrait ce module de son contexte et puis on lui met un gène rapporteur, on voit qu'il conserve sa fonction. Donc c'est vraiment de la modularité. Donc ces modules cis-régulateurs, c'est des unités d'intégration des interactions entre plusieurs facteurs transcriptionnels. Je vais passer la suite. Oui, alors, donc une chose qui est pour terminer, c'est que sur ce... Juste ici, j'ai mis l'accent sur les interactions, mais les interactions individuelles ou les combinaisons d'interactions n'expliquent pas tout. Et un des éléments essentiels, si on veut comprendre l'émergence des propriétés complexes des organismes à partir de leurs éléments, c'est-à-dire les gènes, les protéines et les métabolites, une des propriétés essentielles, c'est que quand on regarde ces réseaux d'interactions, ce que René Thomas appelle les rouages du vivant, en fait, c'est les boucles de rétroaction. Et donc René Thomas, qui était professeur de génétique à l'Université libre de Bruxelles, qui a travaillé d'ailleurs à la même époque que Jacob et Monod à comprendre la fonction de l'ARN et qui a découvert qui est un des trois labos qui ont découvert la régulation positive. En fait, René Thomas, à partir des années 70, il a arrêté de faire de la génétique expérimentale, il a commencé à faire de la modélisation mathématique des systèmes dynamiques et c'est quelque chose qu'il fait encore aujourd'hui, il a 90 ans. Et il a développé tout un système qu'il appelle la méthode logique et qui vise à analyser les propriétés des réseaux en termes de boucles de rétroaction. Et il a démontré mathématiquement et sur base d'un très très grand nombre d'exemples biologiques qu'en fait, le fait d'avoir des boucles de rétroaction positives était un élément qui induit de la différenciation alors que les boucles négatives induisent de l'homéostasie. Et dans quasiment tous les systèmes que moi j'ai pu observer, en tout cas, en étudiant la régulation, chaque fois qu'il y a de la différenciation dans le développement, etc., j'observe des boucles de rétroaction positives. Et chaque fois qu'il y a de l'homéostasie, en analysant en particulier les voies métaboliques, on a une rétroaction négative. Donc j'ai plus le temps de m'étendre là-dessus. La dernière chose dont je ne vais pas parler, mais vous aurez demain... un exposé sur l'épigénétique dont j'imagine qu'on vous le présentera, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le code histone. Je ne vais pas en parler parce que j'ai mon temps qui est dépassé. Mais en fait, le code histone, c'est quelque chose qui a été proposé, c'est une hypothèse qui a été proposée en 2000 et qui disait que, qui partait de l'observation que, au-delà des régions codantes et au-delà des interactions entre facteurs transcriptionnels et ADN, il existe aussi une conformation de la chromatine qui est médiée par des histones, en fait, c'est des protéines qui forment des octamères et la double hélice s'enroule autour de ces octamères. Et en fait, ces histones, on a constaté qu'ils pouvaient être modifiés par des méthylations, par des acétylations, par des phosphorylations et qu'on trouvait une association statistique entre ces sites de modification des histones et certaines propriétés d'activité transcriptionnelle. Et donc, en 2000, il y a une hypothèse qui a été posée que les combinaisons de marques d'histones présidait en fait à l'organisation de l'organisme et à l'épigénétique, en fait, que les mécanismes génétiques, épigénétiques étaient somme toute régulés par ces conformations d'histones. Alors ensuite, dans les années 2000 et dans les années, et plus précisément en 2007, on a développé des méthodes qui permettaient de faire des cartographies des histones à l'échelle de génome entier. Donc ça, c'est un domaine où aujourd'hui, il y a des centaines de laboratoires qui travaillent à essayer de cartographier de manière systématique tous les sites de méthylation, d'acétylation, etc., dans des génomes, et à essayer de décrypter ce qu'ils appellent un code de l'histone. Alors personnellement, je ne suis pas convaincu qu'on puisse parler de code exactement au même sens que le code génétique. Je pense que ça peut être un objet de discussion pour les quelques années à venir. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Quelques questions sur ce sujet ? Pas vraiment.
J'aimerais juste ajouter pour ce qui concerne l'émergence d'un code, du code universel, que dans l'histoire, je pense qu'il y a deux ou trois générations de chercheurs qui ont vraiment cherché pourquoi le code universel maintenant est comme ça et pas autre. Mais très peu de gens, et c'est la clé de trouver une origine de l'état vivant, je suis convaincu, et de trouver vraiment comment n'importe quel code entre deux classes de composés, c'est une question générale, s'installe soi-même, sans intervention de quelque chose d'autre. Et c'est là où les chimistes, je pense aussi, doivent s'investir. Comment n'importe quel code s'installe spontanément.
Michel Crépin, Université de Paris 13. J'ai trouvé votre revue vraiment passionnante, surtout que ça m'a rappelé des bons souvenirs lorsque j'ai fait ma thèse sur l'opéron lactose. Et deux questions simplement. Et la transmission de l'information peut se faire de l'ARN à l'ARN chez certains virus ?
Oui, ça peut se faire. Je pense qu'on connaît maintenant des transcriptases qui synthétisent directement l'ARN depuis l'ARN. À l'époque, en 1970, on ne les connaissait pas quand Crick a publié son.
Donc c'est peut-être une exception.
Que ce soit une exception ou pas, ça ne fait absolument pas entrave à ce qu'il a appelé le dogme central. Attention, le dogme central n'est pas un dogme, ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est une théorie, c'est réellement une théorie scientifique et une excellente théorie scientifique. Comme il l'a appelé dogme, ça a vraiment suscité à juste titre l'envie de le casser, parce que l'essence même de la science, c'est de refuser les dogmes. Mais en fait, ce n'est pas un dogme, c'est vraiment une théorie scientifique. Et donc ça ne contrevient pas effectivement à sa théorie, il me semble. Oui.
Puis autre question aussi... Lors de l'épissage, on peut coder plusieurs protéines à partir d'un gène. C'est une forme d'épigénétique au sens large.
Absolument. Ça fait partie des... C'est pour ça que je dis que l'épigénétique, elle doit être vraiment redéfinie. Enfin, moi, quand je pense épigénétique, je pense à la définition de Waddington. C'est-à-dire réellement tout ce qui fait que, en partant du même génome, des cellules peuvent adopter des phénotypes différents. Et une grande partie des gens qui font de la recherche maintenant sur les mécanismes de méthylation, etc., partent d'une autre définition qui repose sur la transmission héréditaire de caractères qui ne sont pas portés par une modification de la séquence primaire de l'ADN. Je pense que c'est une erreur. Si on revient à la définition originelle de Waddington, on résout tout un tas de disputes et de controverses sur l'épigénétique, parce qu'évidemment, le fait qu'ensuite ces particularités phénotypiques se transmettent ou pas, ça va faire partie des mécanismes épigénétiques. La première démonstration, c'est pour ça que j'ai parlé de l'expérience de Novick-Wiener, c'est un cas particulier de régulation épigénétique dont aujourd'hui on sait qu'elle repose sur l'activation d'un répresseur transcriptionnel ou sur son inactivation, et qui se transmet incidemment de cellule en cellule. Mais ce qui fait qu'elle est épigénétique n'est pas le fait qu'elle se transmet, c'est le fait qu'avec le même génotype, et on peut le démontrer, cette cellule peut adopter de façon stable deux phénotypes différents.
Ok, juste là, moi je suis juste enseignante en lycée et je voulais savoir s'il y avait des liens entre épigénétique et cancer.
Oui, alors il y a des liens entre épigénétique et cancer. Il y a aussi des liens entre génétique et cancer. Hein. Donc, il y a eu un gros débat à l'Assemblée nationale il y a à peu près un an sur l'épigénétique. C'était toute une journée de débat et tous les débats sont accessibles en vidéo sur le site de l'Assemblée nationale. Et là, il y avait plusieurs groupes de recherche en France qui travaillent sur la façon dont les modifications épigénétiques d'une cellule peuvent éventuellement favoriser l'induction de cancer. Ceci dit, il y a aussi, et ça c'est clairement établi un très très grand rôle de la génétique, c'est-à-dire que chaque fois qu'une cellule se réplique, il y a des erreurs en fait, et occasionnellement ces erreurs vont toucher des gènes qui interviennent dans la régulation de la prolifération. Et quand c'est le cas, on a une cellule qui commence à proliférer de façon incontrôlée. Le système immunitaire, dans la plupart des cas, heureusement, arrive à détecter ces cellules et à les stopper, à les tuer. Mais quand une cellule réussit à échapper au système immunitaire, on a un démarrage d'un cancer, quoi, d'une tumeur en tout cas.
Je voulais juste donner l'exemple, mais il y en a certainement d'autres, de l'apolipoprotéine B49. Une protéine spécifique, à ma connaissance, n'a pour fonction que de cliver le précurseur de sa protéine, qui fait 100 acides aminés, en la forme vectrice, qui en fait 49. C'est une forme extrême de dégénérescence du codage.
Je ne pense pas. C'est une régulation post-traductionnelle, mais il n'y a pas de transfert d'information d'une molécule à une autre au sens de la séquence primaire des acides aminés. Idem pour le prion, par exemple. Là aussi, on a une interaction. Au moment où on a découvert les mécanismes du prion, on a dit, tiens, le dogme central a été réfuté. C'est pas le cas, en fait. Là aussi, on a un changement de conformation. Alors, effectivement, si Crick n'avait pas pris le soin de définir information par séquence des acides aminés, et ce qu'il voulait exprimer était simple, en fait. C'est le fait que si on passe d'un code avec 64 symboles à un code avec 20 symboles, on perd de l'information et donc on ne peut plus revenir en arrière. Dit comme ça, ça m'a l'air difficile de le contredire, et c'est comme ça qu'il le réexprime. Et il ne voulait pas dire des choses beaucoup, beaucoup plus générales que ça, je pense. Donc, effectivement, les autres cas sont des mécanismes très, très intéressants de régulation qui interviennent aussi dans la différenciation, dans l'épigénétique, etc. Il me semble que cette apolipoprotéine est impliquée dans le système nerveux, non ? C'est... Ah, ok. Métabolisme des lipides.
Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants de ce matin. Donc, on va faire la pause et le déjeuner va être servi dans la salle où il y avait le café ce matin. Voilà. Et on reprend à 13h30.